fur et à mesure les questions qui peuvent se poser pour vous, pour qu'on puisse les développer dans le cours qui sera la réponse aux questions. Autrement, je vous demanderai, pas hésiter, s'il y a des questions importantes, de les écrire et de les mettre sur la table. Puisque je ne peux pas vous demander à la fin du cours, hein, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, qu'est-ce que vous avez désiré qu'on précise. Donc, le mystère de l'Annonciation doit être vu dans toute sa force. Il faudrait regarder tous les détails. Ce récit est très beau, on le connaît, mais on oublie de voir comment ce mystère qui nous montre le ciel qui s'ouvre pour Marie et par elle pour nous tous, puisque c'est la première révélation du mystère de la fécondité en Dieu. Le mystère du Fils, qui jusque-là était simplement annoncé d'une façon voilée. Si on avait le temps, faites le parallélisme avec la grande annonciation faite à Abraham au chêne de Mamré. Le récit est dans la Genèse, facile à trouver. C'est très étonnant de voir qu'Abraham, qui a un âge avancé, Marie est toute jeune, fiancée à Joseph, donc 18 ans, sans doute. Je sais bien que les uns disent 14 ans, actuellement on dit 18 ans. Il y a 50 ans on disait 14 ans. Bon, on le saura qu'au ciel. Fiancée à Joseph. Abraham, il a plus de 75 ans. 100 ans. Et c'est Dieu lui-même, sous les apparences de trois jeunes gens, trois anges, trois jeunes gens, ils sont trois et sont un. Donc, c'est la révélation d'une manière énigmatique, symbolique de la très sainte Trinité. Vous voyez tous l'icône, hein, on aime tous cette icône merveilleuse, des trois, qui annonce à Abraham qu'il aura un fils. Puis il y a Sarah, qui est à la cuisine. C'est normal, pendant que Abraham se repose, hein, Sarah, elle est à la cuisine. Et elle écoute. Les femmes, c'est curieux depuis longtemps, vous voyez. Depuis Sarah, elle écoute. Et puis ça lui semble tellement affolant qu'elle rit. L'enfant du rire, Isaac. Isaac préfigure Jésus. L'enfant du rire. Faut pas oublier. Ça fait partie de ces annonces de Jésus. Parce que Jésus apporte la joie. C'est l'enfant du rire. Et c'est vrai, Isaac apporte une joie extraordinaire à Sarah et à Abraham. Une joie d'autant plus grande qu'il a attendu si longtemps. Il est père et grand-père, Abraham. Et Jésus apporte la joie à l'humanité. L'enfant du rire. Mais tout se passe tout à fait autrement. Hein. Dans l'Ancien Testament, ce sont les hommes. Dans la Nouvelle Alliance, c'est Marie qui passe devant. Il y a les docteurs de la loi. On aurait pu leur faire une petite annonciation. Ils n'auraient pas écouté. Les docteurs de la loi, Dieu ne leur dit rien. Ils choisissent cette petite enfant, fiancée à Joseph. Donc Marie, dans l'euphorie des fiançailles. C'est beau. Parce que Marie a un cœur d'une telle tendresse. Elle était tellement émue de voir Joseph et d'être fiancée à Joseph. Et en même temps, elle est totalement consacrée à Dieu. Ça nous est montré dans ce texte. Pour Abraham, Dieu se dérange, si j'ose dire. Pour Marie, il envoie Gabriel. tout à fait la même chose. Voyez comme c'est curieux, le gouvernement de Dieu. Moi, j'aurais dit, il faut faire l'inverse. Dieu doit s'arranger pour Marie, pour Abraham. L'archange Gabriel suffit. Si digne que soit, non, pour ce vieillard, Dieu se dérange. Et Abraham avait besoin de ça. Pas commode, hein, pour un vieillard de lui redonner une jeunesse, le renouveau. Il est là. Pour Marie, il faut que Marie puisse répondre librement. Le fiat de Marie à l'ange doit être absolument libre. Or, c'est beaucoup plus facile de dire non à un envoyé de Dieu qu'à Dieu lui-même. Nous savons bien ça. Quand Dieu se présente directement, ça nous fait frémir. Et Marie, elle frémit déjà devant l'ange. Alors qu'est-ce que ça aurait été en face de Dieu? La petite Marie, si aimante, si tendre, si délicate, d'une telle finesse, avec un tel souci d'accomplir pleinement la volonté de Dieu, devant Dieu. Vous voyez, dans quel sens? Dans l'amour. Devant la majesté de Dieu. L'ange, c'est tout à fait différent. L'envoyé de Dieu. Marie est la reine des anges. Elle ne le dit pas. Et l'ange, sans doute, il sait bien que Marie est aimée d'une façon unique. Lui qui voit Dieu. Pour que Marie soit plus libre, l'ange Gabriel. Et alors, vous voyez, je ne vais pas lire avec vous tout ce passage qu'on connaît bien, mais qui est quand même tellement fort. Entrant chez elle, il dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Alors c'est une salutation, il faut comprendre ce que c'est que la salutation orientale. Faut comprendre ce que c'est. Parce que nous ne savons plus très bien ce que c'est qu'une salutation. J'aime te rappeler ce petit épisode qui me frappait toujours énormément. Quand je montais à l'université à Fribourg, à la dernière minute, les étudiants couraient. Alors quand je rencontrais un Français, il me disait bonjour, bonjour père, puis il dépassait toute vitesse. Quand je rencontrais un oriental, un Chinois, il y avait quand même quelques-uns, ou un Vietnamien, il s'arrêtait. Puis salut. Puis il venait par derrière. Il se mettait à mon pas. Oui, salutation européenne, salutation orientale. Je trouve ça très très joli. Hein. L'ange salue Marie. Et il salue Marie en tant qu'il est l'envoyé du Père. On ne voit pas assez ça. Aujourd'hui, on ne comprend plus ça. Saluer quelqu'un, c'est le laisser passer devant. C'est ça, saluer. Se passer devant. Et comme l'ange est le messager de Dieu, c'est Dieu qui laisse passer devant Marie. Ça, c'est inouï. Dieu qui veut mettre Marie en pleine lumière. Vous savez, quand on aime beaucoup quelqu'un, un ami, on aime toujours qu'il passe devant. Et que ce soit lui qui soit en pleine lumière. C'est le geste de Dieu à travers Gabriel pour Marie. La première fois qu'on parle de Marie dans l'Écriture, c'est pour montrer que Dieu la laisse passer devant. Pleine de grâce. C'est à partir de là que petit à petit, les pères de l'Église, les théologiens et l'Église elle-même prendra conscience qu'elle est immaculée. Quelle est la femme qu'on montre dans l'Apocalypse, au chapitre 12. Cette vision de la femme en 12 étoiles autour de sa tête. Elle est immaculée, c'est-à-dire qu'elle est celle c'est la première chose qu'il ait dit à Marie. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Adonai. Le nom de Dieu. Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Voyez les trois aspects du mystère de Jésus. Ça, c'est ce qui est révélé en premier lieu à Marie et donc à nous, puisque Marie est notre mère. C'est pour nous. Il est le Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Et il est le Roi. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Un règne qui n'a pas de fin. Un règne divin. C'est trinitaire cette vision de Jésus, Sauveur, Fils du Père et Roi. Il y a dû avoir un grand silence. Et tout de suite, Marie pose la question, comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Alors vous voyez, c'est cette affirmation de Marie en face de l'ange envoyé de Dieu, devant un message aussi important. Le désir de Marie, c'est d'y répondre pleinement. Elle ne comprend pas. Et pourtant, il est dit, fiancé à Joseph. Donc, point de vue logique, c'est très facile à comprendre. Et Marie ne comprend pas pourquoi. Parce qu'elle s'est totalement consacrée à Dieu. Et que ce grand secret, elle l'a confié à Joseph. Elle est fiancée à Joseph, mais d'une manière toute particulière. Sa consécration à Dieu est première. Elle est fondamentale. Je ne connais point d'homme. Elle s'est totalement consacrée à Dieu. Et devant cette question, l'ange répond. L'Esprit Saint surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. C'est net. Il en donne un signe en plus pour bien confirmer ce message. Élisabeth, la femme qu'on appelait stérile, depuis 6 mois, elle attend un enfant. Voyez, tout est dit dans ce texte. Et Marie reçoit ce message de l'ange dans sa foi. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Elle dit son fiat. Et remarquez bien la réponse de Marie. Son fiat devant une parole qui la dépasse complètement. Marie ne répond pas, j'accepte d'être la mère du Fils de Dieu. Elle aurait accepté en fonction de ce qu'elle avait compris. Et Marie sait que le message la dépasse complètement. Qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, c'est une attitude d'abandon plénier dans la foi. Une remise totale de tout elle-même à la volonté de Dieu sur elle. Ce fiat de Marie. Dans un acte de foi. C'est pour ça que tous les pères de l'Église ont insisté sur ce fait. Marie est mère, premièrement dans sa foi. Elle a conçu le Fils de Dieu. D'abord dans sa foi, avant de concevoir dans sa chair. C'est très fort ça, parce que ça fait comprendre que le lien de la créature avec Dieu comment une petite créature totalement dépendante de Dieu devient la mère de Dieu. On sait bien que c'est pas contradictoire. Parce que Marie est mère de Dieu par la grâce que Dieu lui donne, dans sa plénitude de foi, d'espérance et d'amour. Et c'est pour ça que cette maternité est en premier lieu une maternité contemplative. Parce que la créature ne peut atteindre Dieu que à travers la foi, l'espérance et la charité, que d'une manière contemplative. On touche Dieu dans la foi. Et Marie a reçu ce don que le Père lui faisait de son Fils. Elle l'a reçu dans sa foi, comme un don absolument gratuit, qui la dépasse complètement, et auquel elle s'y donne complètement. Vous voyez, la nouvelle alliance, elle est là. Et cette nouvelle alliance, elle se fait entre Marie, choisie par Dieu, et le Père qui donne son Fils. L'alliance nouvelle dans le Christ, dans Jésus, le Fils bien-aimé du Père, qui devient le Fils bien-aimé de Marie. Alors, réfléchissons, si vous voulez, à ce premier moment de l'incarnation. Point de départ. Dieu, le Père, choisit Marie pour être la mère. Il choisit celle qui s'est totalement consacrée à Dieu. Ce qui était annoncé dans Isaïe, et Marie connaissait cette prophétie. La Vierge enfantera. Elle enfantera un fils. Je ne sais pas du tout, hein, et nous ne savons pas comment Marie lisait ce texte d'Isaïe. C'est très possible que dans sa foi, dans son espérance, c'était l'espérance de tout le peuple d'Israël, l'espérance dans celui qui devait venir comme sauveur. Sauver le peuple, le Messie, que Marie, dans le fond de son cœur, ait pressenti ce choix de Dieu. C'est possible, étant donné la plénitude de foi de Marie, étant donné la qualité de son espérance et de son amour, étant donné la limpidité de son cœur, la parole de Dieu était reçue dans le cœur de Marie dans une telle profondeur, dans une telle simplicité. C'est peut-être ce qu'elle portait au plus intime d'elle-même et que l'ange vient lui révéler. Ce qui est sûr, c'est que Marie va demeurer vierge. Sa maternité divine est miraculeuse. Quand elle pose la question « Je ne connais point d'homme », la réponse de l'ange « L'Esprit Saint surviendra sur toi ». Et toute la tradition des pères de l'Église et des théologiens ont précisé que cette maternité était miraculeuse, que c'était l'action de l'Esprit Saint qui avait fécondé Marie. Miraculeusement. Et que cette conception se réalisait à l'intérieur même du mystère du Verbe de Dieu. Autrement dit, Marie, mère, comme toutes les autres mères, et plus que toutes les autres, cette parole de saint Augustin qu'il ne faut jamais oublier, quand il commente les noces de Cana, il nous dit « Le second vin était meilleur que le premier ». Quand Dieu intervient directement au-delà de la nature, il intervient comme l'auteur de la nature. et par le fait même, il réalise quelque chose de plus parfait. Et c'est vrai, la maternité de Marie est plus parfaite que toutes les autres maternités. Elle est la mère des mères. Parce qu'elle est la mère de Dieu, du Fils de Dieu. Mais aussi parce que sa maternité, selon la chair et le sang, est plus parfaite que toutes les autres maternités. Mais là, on touche un mystère, hein. C'est sûr. Enfin, c'est parce qu'elle est la mère de Dieu. Et c'est pour ça que cette maternité est d'abord contemplative. C'est pas seulement une maternité humaine, avec le consentement de Marie, mais c'est une maternité contemplative dans la foi. Où Marie, dans la foi, a reçu ce don que le Père lui fait, la création de l'âme du Christ. Et cette âme subsiste dans le Verbe de Dieu. Alors là, je suis obligé de préciser un peu au point de vue théologique, parce que l'Église l'a précisé. Il y a toute une série de conciles qui ont précisé ce mystère de l'incarnation. Et c'est important pour nous, pour ne pas tomber dans les confusions, dans les vieilles confusions qui reviennent aujourd'hui. Vous savez, les erreurs, c'est toujours les mêmes. Il y a quelques disques du démon. Il faudrait le faire, les disques du démon. Il y a quelques disques du démon qui sont toujours les mêmes chansons, tout le temps. Les mêmes ornières. Les vieux chevaux tombent toujours dans les mêmes ornières. Alors on voit très bien, au début, l'Église, parmi les disciples du Christ, il y a eu des erreurs grossières que l'Église a condamnées. Et l'Église est arrivée progressivement, au Concile de Chalcédoine, à préciser. Alors, on va le regarder ensemble, puisque ça fait partie du mystère de notre foi. Et le théologien doit regarder ça attentivement. Mais comprenez que c'est ce texte de l'Annonciation plus le grand prologue de saint Jean. Le Verbe est devenu chair. Je crois qu'il faut toujours mettre ces deux textes en parallèle. L'Annonciation et le prologue de saint Jean. Vous savez que c'est comme ça qu'est née la théologie. Hein. Les pères de l'Église aiment de dire la parole de Dieu. C'est comme le silex. Et quand on met deux paroles divines, l'une à côté de l'autre, et qu'on les frotte fortement, jaillit une lumière. C'est très beau comme définition symbolique de la théologie. Parce que la lumière, on ne la voit pas toujours. Hein. Mais pour le croyant, ça doit jaillir cette lumière. Alors je mets ces deux textes en parallèle. Ces deux grands textes. L'Annonciation et le prologue de l'Évangile de Saint Jean. Le Verbe est devenu chair. Le Verbe qui est la lumière véritable. Le Verbe qui provient de la source première du Père. Le Logos. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Ouais. Le mystère du Fils qui est vu dans le prologue de saint Jean comme le mystère du Verbe. En grec, puisque saint Jean a écrit son évangile en grec, c'est celui-là qui nous est transmis. On fait des hypothèses, il a peut-être écrit en araméen. Possible, c'est possible. En disant dire autre chose, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est de recevoir le texte tel que l'Église nous le donne. Il est écrit en grec. C'est très étonnant, ça. Parce que c'était la langue commune à cette époque, la koiné. Même à Jérusalem, on parlait grec. C'est pour ça que Jésus a parlé grec, à Jérusalem. Au tir de bons exégètes. Jésus parlait grec, pas à ses apôtres. Les Galiléens ne savaient pas très bien le grec. Jérusalem, on parlait grec. Le docteur de la loi, sûrement, savait le grec. Le logos, le verbe. À Marie, Dieu ne dit pas le logos. Tu seras la mère du logos. Non, non. Tu seras la mère du Fils de Dieu. Pour Marie, fiancée à Joseph. Cette jeune fille totalement consacrée à Dieu et qui attend le Messie, le Fils de Dieu. Ça, c'est toujours la merveilleuse adaptation de Dieu. Et Jean l'Aigle a le prologue, le Logos. Ça prend une dimension alors étonnante. Le Fils, il est le secret du Père. C'est difficile à traduire Logos, grec, très difficile. En Sorbonne, on traduit « discours ». C'est décadent. Le logos, c'est le secret profond du Père. C'est le fruit de sa contemplation. C'est le fruit de son amour. Or, le fruit de l'amour, c'est un secret. Et il est le secret du Père. Je crois qu'on peut traduire comme ça pour nous. Pour qu'on comprenne ce que c'est que le fruit de sa contemplation, le fruit de sa lumière, et de sa lumière aimante. Il est le Fils. Et ce Verbe, il est source de toute la création. Et ce Verbe, il est devenu chair, l'ultime alliance. Il est venu habiter chez les siens. Demeurer. Le terme grec veut dire dresser sa tente. Il est venu dresser sa tente au milieu de nous. Et c'est pour ça qu'il a voulu être le Fils de la femme, le Fils de Marie, pour être parfaitement l'un de nous. Alors, regardons la manière dont l'Église a précisé ce mystère de l'incarnation, ce mystère de cette nouvelle alliance. Deux natures en une personne. Nature divine, nature humaine, dans le mystère de la personne du Verbe. C'est pour ça qu'on parlera de l'union hypostatique. C'est un terme grec, pénétré dans notre langage. Et on l'a gardé, l'union hypostatique. Hypostasis. Il ne faut pas oublier l'hypostasie, c'est un terme grec qui, à cette époque, je dis bien à cette époque, exprimait le point de vue de la subsistance de la personne. L'hypostasis veut dire quelqu'un qui a son autonomie, qui est dans son autonomie, dans sa totalité. Le mot « personne » au niveau philosophique, dans ce qu'il a de plus profond, implique cette hypostase. Hypostasis, se tenir en dessous. Je vois des sourires parmi ceux qui écoutent ce terme hypostasis. Je dis ça en nota bene, parce que de temps en temps, il faut un peu d'humour, n'est-ce pas ? Un tout petit peu d'humour. Montrer comment Dieu s'est servi du langage des hommes, parce que quand c'est défini par le Concile de Chalcédoine, c'est l'Église sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Donc une définition dogmatique, c'est l'Église. L'Esprit Saint. Donc une définition dogmatique, c'est l'Église, instrument de l'Esprit Saint. Et ceci fait partie de la norme de notre foi. Si nous voulons être chrétiens, nous croyons dans ce mystère de l'union hypostatique. Alors le mot hypostasis, vous voyez, se tenir en dessous, c'est ça que ça veut dire, hein, au point de vue étymologique, hypostasis. Bien, chez Aristote, 4 siècles, 5 siècles avant Jésus-Christ, 4 siècles, hypostasis, en dessous. Cinq siècles après, hypostasise veut dire le terme le plus noble qui soit, la personne. C'est étonnant, ça. Je trouve ça très très joli pour eux. Je dis ça pour les philologues, vous voyez, pour montrer que la philologie c'est très bien, mais ça ne nous donne pas quelquefois la clé. Parce que la réalité, c'est que hypostasise dans la philosophie grecque, chez Plotin, veut dire l'hypostase, la dignité de l'être, la dignité d'un être spirituel, la dignité d'un être qui a sa propre autonomie. Il est premier, il ne dépend d'aucun d'autre. L'hypostasie, c'est ça, c'est celui qui est premier, premier dans l'ordre de l'être. Il se tient tout seul. C'est ça, il se tient tout seul. Un petit gosse, la première fois, qui se met debout sur ses deux jambes. Tiens, hypostasis, tu te tiens tout seul, c'est merveilleux. Sur tes deux jambes. Avant, il était à quatre pattes. Et quand il était à quatre pattes, on n'admirait pas ça. Oui, c'était très, très gentil, mais la première fois qu'il se tient debout, c'est extraordinaire. Il se tient debout. Hypostas, ça veut dire ça, la dignité de la personne. Une personne, elle a une responsabilité. Elle se tient toute seule. Quelqu'un qui est tout le temps relatif à un autre, mais il n'a pas de dignité. Il est tout le temps relatif à un autre. Il est l'ombre. Il est le miroir. La personne, elle est capable d'avoir des décisions propres. Elle est sui compos. Hein, sui compos. Maître d'elle-même. Elle a cette dignité-là. Cette grandeur-là. Alors, l'Église, qui au point de départ, faut pas l'oublier, emprunte énormément à la culture grecque. Il s'est fait cette espèce d'alliance extraordinaire entre la révélation judéo-chrétienne, qui avait été du reste écrite, l'Ancien Testament avait été écrit en grec, les Septante, mais l'alliance de toute la révélation avec toute la culture et l'art grec, avec la philosophie grecque. Il y a eu là une rencontre étonnante. Et alors on a précisé ce mystère qui s'est réalisé en Marie, le fiat de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Le Fils de Dieu, le Verbe, à assumer la nature humaine. Le corps formé en Marie et ne dépendant que d'elle et de l'Esprit Saint. Marie est mère par l'Esprit Saint, sous l'influence de l'Esprit Saint, sous l'action de l'Esprit Saint. Donc d'une manière miraculeuse, divine. Le corps formé en Marie, sous l'action d'Esprit Saint. L'âme créée par Dieu. Et cette âme subsiste. Donc elle a son autonomie dans l'ordre de l'être, dans le Verbe de Dieu. Donc distinguons toujours ces trois aspects. Et on verra toutes les conséquences. C'est à partir de là que on va développer tout le mystère du Christ. Il vient le corps formé en Marie, l'âme créée directement par la très sainte Trinité, comme pour nous. Notre âme humaine est créée directement par Dieu. Et cette âme créée par Dieu subsiste dans le Verbe, dans la personne du Verbe. Et c'est pour ça qu'on dira que le mystère du Christ implique la nature humaine, puisque la nature humaine, c'est le corps et l'âme. La nature divine, puisque le Verbe est Dieu, et donc il a la même nature que le Père. Il est consubstantiel. Il a la même nature que le Père. c'est Dieu qui veut réaliser la plus grande union possible avec l'homme. La plus grande union possible, selon la sagesse de Dieu. La nature humaine ne pouvait pas connaître une unité plus grande avec Dieu que dans le mystère du Christ. C'est pour montrer combien Dieu aime l'homme. Quand on aime quelqu'un, on veut être le plus intimement uni à cette personne. Les convenances dans la sagesse de Dieu. l'intelligence, de temps en temps, veut se libérer de la foi. L'intelligence peut comprendre la grandeur de la foi et s'y soumettre. Mais c'est vrai, l'orgueil, c'est une exaltation de l'intelligence au-delà de l'amour. C'est le primat d'une intelligence au-delà de l'amour. C'est ça la faute d'orgueil. Et l'orgueil lutte directement contre la foi. On ne peut pas être croyant sans soumettre son intelligence à Dieu. On ne peut soumettre son intelligence qu'à Dieu, du reste. N'oubliez jamais ça. Il y a Dieu qui peut nous demander la soumission de l'intelligence, parce qu'il est l'auteur de l'intelligence. Vous ne pouvez pas soumettre votre intelligence à un homme. Vous pouvez dire à quelqu'un, je ne comprends pas. Très bien, très bien. J'essaie de vous communiquer la vérité. Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas vous donner l'intelligence. Je peux seulement vous transmettre ce qui me semble être la vérité. Dieu seul donne l'intelligence. Et c'est pour ça que Dieu peut demander à l'homme l'offrande de son intelligence dans la foi, sans perdre l'intelligence. Au contraire, l'intelligence s'ennoblit. Elle a une liberté nouvelle par la foi. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre la foi et l'intelligence. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre la vraie recherche de la vérité au niveau scientifique et au niveau de la foi. Ça va en être convaincu en tant que croyant. Mais il peut y avoir des espèces d'oppositions apparentes. Et ces oppositions sont toujours apparentes. Parce qu'on comprend mal le mystère de la foi. Et on exagère du côté scientifique. C'est-à-dire certaines hypothèses, on les prend comme des vérités. Ce qui arrive très facilement, surtout dans les propagandes. La vulgarisation, vous savez bien. La vulgarisation, c'est toujours un tout petit peu gonflé. On gonfle. Ça fait partie de la propagande. Alors, les convenances, saint Thomas se pose la question. Est-il convenable que Dieu s'incarne ? Et la première raison, Dieu est la bonté souveraine. Or, le propre du bien, c'est de se communiquer le plus qu'il peut. Un homme bon, c'est celui qui attire et qui se donne. À la différence de la perfection, l'intégrité est tout à fait autre. Il y a des gens qui sont intègres, vous savez bien. On ne les prendra jamais en défaut. Mais quelquefois, ils savent trop bien qu'ils sont intègres. Alors, ils sont des lois ambulantes. C'est très gênant. Tandis que la bonté, c'est celui qui attire. La bonté suscite l'amour. Et la bonté implique la communication. Puisque Dieu est le bien souverain, il se communique le plus qu'il peut. Et l'incarnation montre la communication la plus parfaite de Dieu avec sa créature. C'est l'alliance par excellence. On ne peut pas rêver une alliance plus parfaite. C'est l'alliance dans son sommet. Dieu respectant pleinement l'homme et le prenant dans sa plus grande intimité personnelle. Par l'incarnation, l'homme pénètre dans le mystère de la très sainte Trinité. Par l'incarnation, l'homme est Dieu. L'homme dans le Christ est Dieu. Et parce que Jésus devient source de salut pour nous, le mystère d'incarnation se prolonge en quelque sorte en chacun.